La RDR présente. Podcast.
La revue des ressources.
La revue des ressources.
Cette littérature est une littérature, la littérature des corps est une littérature de témoignage. Et le témoignage s'épuise, parce que les témoins meurent, disparaissent. Donc, là, il y a d'abord un problème littéraire. Les livres qui resteront de cette littérature, Primo Levi, etc., sont Robert Antelme, sont des livres où le témoignage est dépassé par la force littéraire, par la force universelle des choses qui sont dites. Il est évident que le témoignage de Primo Levi, par exemple, vous prenez celui-là, il dépasse le simple rapport. Il y a des livres excellents, et des livres très utiles, et des livres nécessaires pour les historiens, parce qu'ils forment la base documentaire de leur travail d'historien et d'analyse d'un processus qui a duré des années. Il y a des livres qui n'ont aucune, même pas volonté littéraire ou ambition littéraire. Ils relatent les faits. Donc la première chose que je voudrais dire, que je constate, c'est que la littérature qui restera est littérature de témoignage qui a essayé de dépasser le témoignage pour... Là, ça pose évidemment des problèmes de tout ordre, littéraire et moral, parce que la tentation est forte d'en rajouter. Quand on parle de cette horreur-là, on en rajoute. Parce qu'on est tellement peu crédible qu'on rajoute pour être crédible, pour impressionner le lecteur. Je ne dis pas que ce soit habituel ou général, mais ça peut arriver. Moi, je connais un excellent livre du point de vue documentaire sur le camp de Buchenwald, qui est le camp où j'ai passé 2 ans, donc je le connais un peu. Et à l'époque où j'y étais, c'est l'époque dont traite ce livre. Et le témoin qui est de bonne foi absolue et qui raconte ce qu'il a vu, tout à coup raconte qu'il a vu sur la place d'appel de Buchenwald, où avaient lieu les exécutions punitives des SS, pendaient ou des fuyards, des tentatives de fuite ou d'évasion, etc., sur la place d'appel devant les déportés pour l'exemple. Voilà. Il a vu un jour 45 Russes pendus à la fois. Non, c'est pas vrai. Il a voulu certainement impressionner le lecteur et rajouter ça. Le reste du livre est parfait, on peut tout souscrire. Quand il raconte comment fonctionne la cuisine, quand il raconte comment ça, les douches, quand il raconte ce qu'on mangeait, c'est absolument photographique de vérité. Mais là, non, on ne peut pas. D'abord, les exécutions n'étaient jamais massives, et ensuite, on ne peut pas. Même avec le pouvoir SS et les mitrailleuses braquées sur les 40 000 déportés qui sont sur la place d'appel le soir ou le matin, on ne peut pas pendre 45 Russes parce que les 5 ou 6 000 Russes qui sont sur la place d'appel montent à l'assaut. Même sans armes, même à main nue, ils montent à l'assaut. Les mitrailleuses SS en tuent 3 000, mais il y a 3 000 ou 1 500 qui arrivent jusqu'au Mirador. On ne peut pas. On ne peut pas imaginer des Russes assister par milliers. On ne peut pas. Donc c'est un rajout, c'est une invention. Ça, c'est un danger. Alors là, il y a une limite morale, n'est pas une limite littéraire. La limite littéraire, chacun a son code de vérité, bien entendu. Chacun a un peu de fiction pour que la vérité soit vraisemblable. Pourquoi pas? Mais il y a un code. Ne jamais écrire dans un livre sur l'expérience des camps quelque chose qui puisse être utilisé par les négationnistes. Quelle est la méthode négationniste? Prendre un petit élément d'un témoignage, démontrer qu'il est faux, ce qui arrive, à cause de ces exagérations, et à partir de là, démolir le témoignage dans son ensemble. Donc il ne faut jamais donner le pied à une critique factuelle négationniste, parce que alors là, donc ça c'est le code moral. Mais cela dit, ça c'est pour le livre des témoins. Mais les témoins meurent. Et ils sont en train de mourir. On est très peu nombreux. Très peu nombreux. Et aux prochaines commémorations, un peu comme ça, un peu solennelles, Moi, j'étais la dernière de Buchenwald qui a eu lieu au mois d'avril cette année. La prochaine, je ne serai plus là. Ça se passe tous les 5 ans. Alors, qui va parler? Qui va parler? Alors, c'est pour ça que j'ai eu la thèse depuis longtemps que si les jeunes romanciers, les nouveaux romanciers, ne s'approprient pas cette mémoire et ne font pas des romans sur l'expérience, les romans, évidemment, qui auront aussi leur obligation de vérité, de véracité. Ça, c'est le problème de chacun. Et c'est pour ça que j'étais très, 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 très frappé et très content qu'en France, ces derniers temps, il y a plusieurs romanciers qui ont écrit des livres sur la violence en général et sur les camps en particulier, qui sont des livres qui ne sont pas des témoins. C'est même pas dans leur famille que ça s'est passé. C'est avant. Ils ont reconstitué avec... il y a Yannick Enel, il y a Fabrice Humbert, il y a Laurent Binet. Tout ça, des livres sur l'expérience de la guerre mondiale et des camps, en particulier de la répression SS. Ils sont des livres extraordinairement beaux et positifs. Donc, je dis, il faut que ça s'approprie. Il faut que les jeunes romanciers s'approprient. C'est une idée que j'ai et que je crois elle est facile à démontrer sur le plan de l'histoire littéraire. Voilà.
En même temps, par rapport à ça, il y a eu des réactions très violentes.
Il y a eu des réactions très violentes, surtout sur le cas de Yannick Enel, parce que le personnage de Karski est un personnage historique. Et ce personnage historique a laissé des mémoires personnelles, et c'est l'une des premières sources, peut-être pas la première, mais l'une des premières sources d'informations globales sur l'extermination du peuple juif. Et donc là, évidemment, là, il y a eu... Mais dans ce cas précis, Lanzmann, qui est l'auteur de quelque chose d'incontournable, on ne peut pas parler de ça sans parler de Shoah. Il a même donné le nom. On peut discuter de ce nom, mais il l'a donné. On peut discuter, moi, personnellement, je préfère le mot extermination, qui est plus simple, plus facile à traduire dans toutes les langues, moins mystérieux que Shoah. Mais bon, c'est Shoah maintenant. L'extermination du peuple juif, on dit Shoah, on ne dit pas autre chose. Donc, il a ce mérite incontestable et même prodigieux, si on veut. Il a donné le nom à un événement qu'il dépasse, comme il nous dépasse tous, dans la réalité de l'histoire du XXe siècle. Mais a-t-il pour autant le droit d'être le seul à pouvoir en parler? Je crois que la discussion est tranchée d'avance, avant de commencer. Heureusement qu'il y a des gens comme Yannick Enel qui n'ont rien à faire avec cette histoire-là, personnellement, intimement, mais qui en parlent aussi, heureusement, parce que sinon, une fois que Lanzmann sera mort, une fois que moi je serai mort et les autres seront morts, qui va parler de ça? C'est évident. C'est-à-dire, en fait, aucun de nous témoins n'a le copyright sur cette histoire. Il faut saluer et souhaiter que les jeunes écrivains s'en emparent aussi. Bien sûr, il y a les historiens, il y a les livres qui ont déjà été écrits, et il y a les sociologues, mais... je dis souvent, et c'est un exemple qui est évidemment un peu désagréable à entendre, mais quel est le souvenir le plus prégnant que nous avons tous les survivants des camps nazis? Parce que les camps soviétiques, c'est encore autre chose. Les camps nazis, c'est l'odeur du four crématoire. Et comment est-ce qu'un sociologue ou un historien peut transmettre au lecteur d'aujourd'hui ce que c'était que l'odeur du four crématoire? Cette étrange odeur dont parle Léon Blum dans ses souvenirs de Buchenwald. Comment? S'il n'y a pas un peu de métaphore, un peu d'élaboration littéraire, un peu de suggestion pour que le lecteur comprenne peu à peu ce que c'était.
Podcast.
La revue des ressources.
La revue des ressources.
J'en ai juste un peu.